Bien. Bonjour à tous et à toutes pour cette table ronde autour d'un sujet qui est souvent évoqué dans des films, des livres, des romans d'anticipation, qui est celui de du contrôle global des citoyens, de la surveillance, de la manière dont on nous manipule. Et pour aborder ce sujet, nous avons Yos, qui vient de Cuba et qui utilise l'anticipation pour évoquer des problèmes qui, je pense, nous concernent directement aujourd'hui. Jeanne Adbats, qui va aborder également pour qui la surveillance de la société est également une préoccupation. Non ? Enfin, pas que. Alors, Olivier Paquet, qui apporte aussi le regard de sciences politiques dans la réflexion sur le contrôle des citoyens, comment on nous contrôle aujourd'hui. Oui. À Jordal, je pense dans tes livres, on ressent aussi une réflexion globale sur la société.
Oui, parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous paranoïaques qu'on n'est pas surveillés de façon permanente, quoi.
Et on attend encore Benjamin Maillet, qui, je pense, ne va pas tarder. Bon. Mais on a... qui a donc produit un film qui parle de vidéosurveillance et de surveillance des citoyens. Je vous propose donc je vais vous laisser présenter chacun votre point de vue sur la question. Peut-être, Olivier, tu veux commencer? Non ? Non, plutôt après.
Je passe.
On va commencer par Yos. Quand on vient de Cuba, est-ce que ça a une influence sur l'envie de parler de cette surveillance des citoyens ? Oui, je pense.
Bueno, está claro que toda sociedad es un compromiso en el que los ciudadanos renuncian a parte de su libertad a cambio de ciertos derechos. La sociedad cubana es un ejemplo en el cual nadie nos ha preguntado si teníamos alguna vez la intención de renunciar a ciertos derechos. Simplemente no nos lo dijeron.
Alors, en fait, il est évident que toute société comporte une part de compromis, en ce sens que les citoyens vont accepter d'abandonner une petite part de leur liberté en échange de certains droits. Le problème pour Cuba, c'est qu'on ne nous a jamais demandé notre avis et on nous a pris nos libertés sans nous donner de droits et sans nous dire exactement ce qu'on allait faire.
Hasta hace poco más de un año, los cubanos, para salir del país, no necesitábamos solamente el pasaporte y la visa de otro país que íbamos a visitar. Necesitábamos un permiso especial del gobierno para que como ciudadanos pudiéramos abandonarlo. Algo que me parecía muy, muy extraño.
Alors, jusqu'à l'année dernière, les citoyens cubains, quand ils voulaient sortir du pays, ils n'avaient pas seulement besoin d'avoir un passeport et un visa, il leur fallait également une autorisation spéciale du gouvernement pour pouvoir sortir de Cuba, ce qui, moi, me paraît quand même un peu extraordinaire.
Cuba est une espèce de museo político, una de las únicas, de las últimas democracias populares, por no decir dictaduras de izquierda que funcionan en el mundo.
Cuba, en fait, c'est une espèce de musée politique vivant. C'est en fait la dernière démocratie populaire existante, si on peut effectivement réellement appeler ça une démocratie.
En el que la actitud del gobierno sobre los ciudadanos no es la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Todo cubano es culpable de algo, incluso si no lo sabe todavía.
Et en fait, l'attitude générale du gouvernement, c'est au lieu de considérer que tout citoyen est innocent jusqu'à preuve du contraire, considère que tout Cubain est coupable de quelque chose, forcément, et même s'il l'ignore lui-même.
Nuestro Estado es de algún modo el concepto de un gran hermano que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene.
Et donc notre gouvernement a développé ce fameux concept de grand frère, voilà. On a un grand frère qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous.
Et constantemente trata de convencernos de que todo lo que hace es por nuestro bien.
Et en fait, on essaye continuellement de nous convaincre que ce que le gouvernement fait, c'est pour nous et dans notre intérêt.
De hecho, para terminar esta intervención, quería decir que en Cuba existe la figura política de peligrosidad criminal. Una persona puede ser encarcelada si la policía cree que en un futuro va a cometer un delito peligroso.
Et donc, en fait, bah, y a aussi ce concept qui a été développé à Cuba de la police criminelle qui fait que un, enfin, du soupçon de criminalité aussi, qui fait qu'un individu peut être incarcéré si la police pense que dans le futur, il va commettre un délit.
De modo que en Cuba, el famoso lema de vigilar y castigar se convierte en prevenir y castigar.
Et ce qui fait que la devise, finalement, surveiller et châtier, s'est transformée à Cuba en prévenir et châtier.
Cela étant, ils font exactement la même chose aux États-Unis. Hein. Ce n'est pas une démocratie, c'est pas une démocratie populaire. Hein?
C'est également une thématique qu'on retrouve dans des films d'anticipation, des romans d'anticipation avec ceux qui ont de la préscience. Oui, Minority Report, exactement. Je cherchais le titre. Mais on retrouve ça, sauf que là, ça semble être le cas et on. Enfin, c'est le cas un peu partout. Et Yael, tu penses qu'ailleurs, ce n'est pas le cas ?
Si on remplace le mot populaire par n'importe quel autre, dans République démocratique, j'ai quand j'entends Rios, d'entendre parler de la France. C'est assez terrible, mais c'est parce qu'on pourrait exprimer exactement la même chose. Alors évidemment, ça va peut-être pas jusqu'aux exagérations que subit le peuple cubain de temps en temps, mais on n'en est pas si loin que ça, parce que le nombre de choses qu'on fait pour notre bien, tout est pour notre sécurité ou notre bien, le nombre de libertés individuelles qu'on nous a sucrées en l'espace de 20 ans, sous prétexte qu'il fallait nous protéger de nous-mêmes et surtout de nos frères, nos femmes, nos fils, nos enfants, tout le monde, quoi. Donc c'est, waouh, c'est assez, voilà. Finalement, je me sens pas si loin que ça. Yos, tu as oublié une autre république démocratique. La Corée du Nord.
En Cuba decimos que no estamos tan mal. Siempre podríamos emigrar a Corea.
Donc à Cuba, on dit que de toute façon, on a toujours une solution, on pourrait toujours émigrer en Corée du Nord.
Je ne suis pas loin de partager le point de vue de Yael. Cela étant, je pense que nous portons une très très grande responsabilité dans cet échange sécurité contre liberté, parce que nous sommes à un stade où nous ne supportons plus la prise de risque. Le fait qu'il y ait des accidents, le fait que quelque chose se passe mal, on en parlait avec Olivier Paquet il n'y a pas très longtemps, c'est vécu comme insupportable par la population. Lorsque un instituteur emmène des élèves à une sortie et que y a un drame qui se produit, vous pouvez être sûr que l'instituteur sera immédiatement sabré, pardon. Et parce qu'on considère que l'accident ne peut plus arriver dans notre société moderne. Il n'a plus le droit d'arriver. On devrait avoir le principe de précaution, on devrait avoir tout ça. Personnellement, moi, je ne sors plus de mon collège. C'est fini. Je ne prends pas le risque qu'on prenne le risque. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver en tôle pour des conneries, parce qu'un camion a brûlé un feu et qu'on considère que c'est insupportable de ma part de ne pas prévoir qu'un camion brûle un feu.
Oui, pour continuer sur cette question, je crois que la différence entre les sociétés totalitaires et les sociétés démocratiques, effectivement, il y a cette question du contrôle et de la sécurité. Quelle est la différence, et notamment, quelle est la différence liée à la technologie ? L'idée de surveiller la population, ça existe même sans la technologie. Je discutais justement sur un principe historique. Au Japon, ils avaient trouvé un système au XVIe siècle. Comme les campagnes, à un moment, il y a un certain contrôle du shogunat, donc du pouvoir sur les petits seigneurs, il a fallu ramener les seigneurs vers Kyoto. Mais il fallait quand même exercer un contrôle sur les campagnes. Ils avaient trouvé un système qui était le système des cinq familles. Et donc, dans les villages, il y avait des groupes de cinq familles avec un chef de clan. Et donc, quand il y avait un des membres de ces cinq familles qui faisait une faute, qui ne payait pas ses taxes, les cinq étaient sanctionnés. Ce qui fait que chacun dans chaque groupe devait surveiller les autres Et ça a été même, donc y avait, c'était pas simplement les taxes, c'était aussi, par exemple, quand il y a eu l'avancée du christianisme au Japon, de chercher s'il y en avait un qui était converti au christianisme, si les autres devaient le dénoncer, sinon eux-mêmes étaient sanctionnés. C'était, et il y avait la possibilité d'ostraciser aussi la personne qui dérogeait au principe du groupe. Et l'ostracisme au Japon, c'était quelque chose de dramatique, parce que c'est une société paysanne, de culture du riz. Pour cultiver le riz, ça ne peut se faire que de manière collective, puisqu'il faut utiliser l'eau, l'irrigation. Et quand vous êtes un individu lambda à cette époque, vous ne pouviez pas quitter votre village. C'est la même chose que Cuba, mais sauf qu'on ne pouvait pas quitter son village, il fallait l'autorisation du seigneur pour pouvoir aller du village A au village B. Donc ce qui fait que le contrôle était absolu, il n'y avait absolument rien de technologique là-dessus, donc la surveillance des individus par chacun, c'est existé sans technologie. Quelle est la différence dans notre société actuelle, finalement? C'est qu'on considère que dans nos sociétés que à partir du moment où la technologie permet de réduire le risque, alors il faut l'utiliser. C'est ça la différence. Les sociétés précédentes, quand la technologie ne permet pas de surveiller, finalement, bon, on accepte le risque puisqu'on ne peut pas le contrôler. Or, on se dit maintenant, et de plus en plus, qu'on peut contrôler le risque. Or, le paradoxe, c'est que nous, individus, n'avons aucune notion vraie et statistique du risque. C'est-à-dire, nous sommes aveugles au risque. Nous avons peur de prendre l'avion et nous prenons notre voiture. Statistiquement, les problèmes de la voiture sont, on a plus de chances de se tuer en voiture que de se tuer dans un avion. Donc, on n'a pas de notion du risque. Et même, on parlait du principe de précaution, on voit un exemple du principe de précaution. Si ça intéresse sur la question de la technologie. C'est sur, par exemple, c'est la question des antennes de téléphone, antennes mobiles. Il existe des gens qui ont donc un syndrome d'hypersensibilité électrique, et ces gens, ils existent, c'est des gens réels, hein, ils ne supportent pas les ondes des Wi-Fi et autres. Donc ça, ces gens, ils existent. Sauf que scientifiquement, médicalement, on ne sait pas le processus qui fait que les ondes Wi-Fi peuvent avoir une incidence sur nos cellules. On n'a pas encore trouvé. Peut-être qu'on trouvera, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc, ce principe de précaution, il n'y a pas 36 solutions. Soit on diminue le nombre d'antennes, soit on limite la puissance. C'est la seule solution. Paradoxe, c'est que si on fait ça, on augmente la puissance des téléphones, des smartphones ou tout ce que vous voulez, pour accrocher le signal. Et en ce faisant, on augmente la puissance des ondes sur nos oreilles, près de nos cerveaux. Et ça, scientifiquement, ça a été prouvé qu'il y a une vraie incidence. Donc, si on veut limiter le risque, on limite quel risque? Si on veut un risque zéro, comment on fait si on veut utiliser nos téléphones? On échange un risque hypothétique, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça fonctionne, on sait que les gens électrosensibles existent, mais contre un risque sûr, qui est celui des téléphones. Donc, on est dans une société qui est devenue quasiment psychopathique. Enfin, pathologique. Névrotique, voilà, c'est mieux. Névrotique par rapport au risque. Et ce faisant, on délègue à l'État, à la puissance publique, ce pouvoir de diminuer ce risque. Et on le rend comptable si le risque arrive, si le risque est avéré, comme c'était une faute. Donc les pouvoirs publics se retrouvent piégés, d'une certaine manière, entre leur volonté, et en même temps on leur donne, nous citoyens, nous leur donnons ce pouvoir de contrôle, en disant nous deux, ils doivent faire que vous n'allez pas limiter la consommation de tabac, limiter la consommation d'alcool, faire les limites de vitesse, tout ce que là, au nom d'un risque collectif, sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de déterminer le risque, donc on est quand même, nous, responsables, citoyens. Et ce faisant, l'État se dit, puisque les citoyens nous donnent ce pouvoir, nous allons l'exercer. Mais sauf que dès qu'on donne à l'État le pouvoir d'exercer ce contrôle, il va de plus en plus loin, il n'a pas de limite pour limiter le risque, puisque justement ce risque est flou. Donc la surveillance, elle est là. C'est-à-dire, à partir du moment où nous disons il y a un contrôle, l'État va l'exercer de manière de plus en plus étendue, et c'est là qu'on a les excès que l'on a.
Sans compter leur réel désir de contrôle, mais auquel, effectivement, on donne un blanc-seing de fils en tremblant pour nos fesses, systématiquement. Les gens qui échangent la sécurité contre la liberté, il y en a des centaines, des milliers. Il suffit pas de se dresser tout droit en disant « c'est insupportable », oui. Sauf qu'on leur a signé ce droit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas seulement l'État qui est un grand méchant. Il est un grand méchant, certes, mais on souscrit à tout ce qu'il fait. Là, et on commence. La souscription, elle commence par se censurer soi-même. Dès que tous les délires sur la NSA, enfin, ce ne sont pas des délires, hein, mais toutes les angoisses sur la NSA, l'espionnage, etc., nous conduit à nous auto-censurer. On ne devrait pas, en fait, parce qu'on les noierait sous le flot d'informations, parce qu'on ne peut pas traiter ce qu'ils traitent.
Alors, là, on parle de risques qui nous semblent extérieurs à nous. Le souci, je crois que c'est dès que nous, on se rend compte qu'on ait une partie du risque, que du coup, on est surveillé. Parce que le fait de surveiller les antennes, encore, c'est quelque chose d'extérieur. Mais si on nous dit, on vous surveille, vous, toi, Jeanne, toi, parce que vous faites partie du risque, et en particulier les écrivains de science-fiction, je pense, font clairement partie du risque de bouleversement de la société en rendant les gens conscients. Donc, la formation d'esprit critique peut devenir un risque pour au niveau du système global, peut le déstabiliser. C'est là qu'on se dit que lorsque IOS parle du gouvernement qui vous dit « mais on fait ça pour votre bien », il n'y a pas qu'à Cuba qu'on fait ça pour le bien des uns et des autres. Et le problème n'est pas tant la volonté de sécurité qu'on va rechercher, c'est que nous sommes le risque et qu'on est surveillé. Alors, est-ce que la technologie qui va croissant, on pense au big data, va changer vraiment la relation du citoyen à l'ensemble?
Alors, il y a une autre chose aussi par rapport à la technologie, c'est-à-dire par rapport notamment aux états totalitaires. Je pense, j'ai une amie qui a vécu, une Française, qui a vécu au Cambodge pendant la période des Khmers Rouges. Que se passe-t-il dans ce monde totalitaire? C'est que l'objectif, c'est de réduire le moi, l'intime, de le faire réduire le plus possible. C'est-à-dire que finalement, on lui demandait de s'abstraire, de se dissoudre. Et alors, je peux vous dire qu'au niveau totalitarisme, bouddhisme plus totalitaire, on multiplie, ça fait 5 à 6 millions de morts. Hein. C'est parce que le bouddhisme, déjà, c'est un peu l'effacement du moi, mais alors, rajouter là-dessus le totalitarisme, c'est la combinaison la plus efficace. Donc on réduit le moi, c'est ça le truc. Or, la technologie, que se passe-t-il finalement? Pourquoi on a des big data? Parce qu'on est passé d'un ordre finalement bourgeois où, notamment en France, où l'expression du moi, de l'intime, devait rester dans le cadre privé. Hein, c'est, pour reprendre comme référence, on peut penser aux travaux de Norbert Elias sur le process de civilisation, c'est-à-dire comment on a réduit, avec l'étiquette, on a contrôlé le corps bourgeoisement, sachant que c'est une affaire de classe sociale. La bourgeoisie avait une sorte de contrôle qui s'opposait aux classes populaires qui étaient dans le non-contrôle. Il y a une sorte d'opposition comme ça. Que se passe-t-il avec les nouvelles technologies? C'est finalement l'explosion de l'intime public. Ça commence avec les blogs, ensuite on a Facebook, on a Twitter. Je regardais un truc, j'étais à l'exposition au Grand Palais, moi Auguste, donc sur l'empereur Auguste. C'est intéressant parce que l'empereur Auguste a assis son pouvoir sur des statues où il se représentait, mais il se départicularisait, c'est-à-dire qu'il devenait une sorte d'icône et de divinisation à partir de la représentation. Et au Grand Palais, il y avait un dispositif très marrant, c'est-à-dire que vous pouviez, vous, visiteurs, vous faire prendre des selfies avec les statues. C'est-à-dire, c'est tout l'inverse de l'empereur romain, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous affichiez votre moi, votre visage, votre binette, à côté de la statue de l'empereur Auguste, de ce que vous voulez. Donc on a une excroissance du moi à travers les nouvelles technologies. C'est-à-dire Twitter, vous pouvez parler de vous. Et alors sur les blogs, il y avait avec la question de l'anonymat. Donc on a les big data, c'est parce qu'il y a une excroissance du moi. Donc, c'est, et cette excroissance du moi, c'est le pouvoir que l'on donne aussi.
Le moi ni le nous, en fait. Et du coup, on est beaucoup moins dangereux, quelque part. Donc, on est moi, plutôt que nous.
Mais non, c'est intéressant parce que c'est une façon de psychanalyser les big data qui mérite réflexion. Non, il y a effectivement il y a des choses qu'on laisse faire à nos gouvernements parce que d'abord on a voté pour eux ou contre, qu'importe,
ou pas.
Mais dans tous les cas, à un moment donné, on confère un certain pouvoir à des gens qui ont comme premier souci de s'en servir. Jusqu'aux périodes où les technologies étaient insuffisantes pour fliquer absolument tout le monde, c'était pas problématique de tricher. C'est-à-dire de pouvoir passer complètement inaperçu, c'est-à-dire de n'avoir une identité personnelle qui ne soit connue que de petits groupes d'amis que nous avions, de nos frères et nos sœurs. Voilà. Maintenant, ça devient difficile, non pas parce qu'on se montre sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quoi, c'est parce qu'on utilise tout un tas d'outils qui sont des flics. On a en permanence sur soi un nombre incalculable de flics. Celui-là, là, même éteint, il m'espionne. Et on l'a accepté, certes, mais c'est devenu un outil de contrôle qui est extraordinaire. Les big data aujourd'hui sont capables de traiter beaucoup plus d'informations que tu ne penses. Prism est un outil absolument phénoménal. Pourquoi on n'a pas trop râlé en France à propos de l'espionnage intensif de nos amis américains? C'est qu'on fait exactement la même chose.
J'ai beaucoup aimé les cris d'Orfraie devant ce truc-là, alors en me disant, mais ils se foutent de la gueule de qui? Franchement. Ils font la même et depuis toujours et même partout. C'est le numéro de Vierge effarouchée du gouvernement français à ce moment-là était merveilleux. C'était...
Ils n'ont pas fait que la Vierge effarouchée, puisqu'ils en ont profité pour faire passer un texte. Non, parce qu'ils ont quand même fait très fort, tout en disant, oh, c'est mal ce que font nos amis américains. On va passer le même texte. C'est-à-dire que dorénavant, l'armée française pourra espionner n'importe quel type de citoyen de façon électromagnétique. Oh. Ça, il y a même à Cuba, on n'y avait pas pensé encore.
Là, on parle de surveillance et de traitement des informations à des fins sécuritaires, mais il y a également, je pense, une autre application à qui profite le crime.
C'est raté. Puis j'aurais visé Carole, et c'est pas drôle. Bon. En se protégeant, en sachant comment utiliser le réseau nous-mêmes, hein, il n'y a aucune raison de rester des moutons par ignorance. Et c'est de ça, à mon avis, que nous sommes responsables, en restant des individus et, une fois de plus, en n'étant pas des nous.
Oui, un truc intéressant pour voir la conscience quand même des gens, vous connaissez sans doute le jeu massivement multijoueur World of Warcraft, donc qui est par une société qui s'appelle Blizzard Entertainment. Et donc, il y a des tas de joueurs qui sont sur ce jeu et qui ont des personnages avec des noms de personnages qui ne sont pas les noms qu'ils ont individuellement. Et un jour, Blizzard, donc ils ont un système, un site internet avec un forum. Et Blizzard se dit, bah, finalement, ce qui serait simple pour se connecter, c'est d'utiliser votre nom réel. Vous allez vous connecter à ce jeu sous votre nom réel. Donc en se disant, bah voilà, puisque finalement, bah, on se connaît tous, on est tous des copains, on va utiliser notre nom réel. Et là, ils se sont retrouvés face à une levée de boucliers. À ce moment-là, des utilisateurs qui ont dit, bon, vous êtes bien sympa, mais nous ne voulons pas nous connecter, que notre nom réel apparaisse sur ce jeu. Et notamment, parmi les gens qui étaient contre, c'est notamment, par exemple, les femmes qui joueuses, qui ne voulait pas que... Parce que le problème quand on est femme joueuse, c'est qu'on a une bordée de joueurs mâles qui viennent vous agresser plus ou moins... Enfin bref, je ne vous fais pas un dessin. Et donc, les femmes joueuses, non, je ne veux pas, je veux être maîtriser mon identité sur le réseau et je ne veux pas qu'on sache que je suis une femme. Je veux pouvoir utiliser un pseudo et qu'on n'imagine pas si je suis un garçon ou une fille. Donc il y a quand même une maîtrise, quand même, on sent quand même dans des joueurs, donc des gens qui jouent et qui sont dans le milieu informatique et Internet, qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et que quand la société, une société utilise cette limite, là, quand même, il y a des alarmes qui s'allument.
Facebook et Google ont tenté le même truc il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus loin. Il y a eu des gens qui, de toute façon, étaient toujours sous leur vrai nom. Et il y a eu une grande flambée des pseudos à la con. Par réaction, parce qu'il n'était pas question qu'on donne forcément son nom, et c'est tout à fait une marque de réaction par rapport au contrôle. Alors là, c'est là qu'on se retrouve avec l'argument qui me fout, qui me rend malade, qui est: ah, mais si vous avez rien à vous reprocher, vous avez rien à cacher. Ah ben si, j'ai le droit d'avoir mon intimité, je suis prof, j'ai le droit de que mes élèves soient pas au courant de ce que je pense de l'éducation nationale, parce que quelque part ça serait un problème. Hein, c'est qu'ils auraient moins confiance tout de suite. Par exemple, ça.
Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, on critique régulièrement la technologie, mais il semble qu'il y ait la résistance aussi via la technologie. Je pense à tous les systèmes Anonymous, les hackers, avec un état d'esprit qui crée une sorte de société parallèle d'anonyme. Qui agissent. Alors, je ne sais pas si Yos, vous voulez réagir à ce que vous entendez, en particulier concernant la technologie. Qu'en est-il sur Cuba? Est-ce qu'il y a possibilité comme ça de contourner un peu le système via la technologie?
Bueno, en Cuba, por ejemplo, el acceso a Internet no es libre. Los ciudadanos no podemos tener Wi-Fi, no podemos tener una cuenta de Internet en la casa. Incluso el acceso al correo electrónico está muy limitado.
Alors en fait, à Cuba, c'est bien simple. Les citoyens n'ont pas le droit d'avoir une connexion à Internet. L'accès n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir le Wi-Fi à la maison, d'avoir un accès à Internet. Et même le courrier électronique n'est pas libre. Il est extrêmement surveillé.
Cuba es la demostración de que el control y la vigilancia comienzan por el control de la información que llega a los vigilados.
Et en fait, Cuba, c'est l'exemple que le contrôle des citoyens, c'est en fait le contrôle de l'information qui parvient jusqu'aux citoyens.
De todas maneras, en Cuba, hay mucha gente que tiene acceso ilegal a Internet. Hay gente que tiene cuentas de Twitter absolutamente ilegales. Hay gente que tiene blogs que no están aceptados por el gobierno. Pero es una especie de lucha de guerrillas contra el monopolio informativo que tiene el gobierno.
Alors en fait, à Cuba, il y a beaucoup de gens qui, de façon illégale, arrivent en piratant à être sur Twitter, à accéder, à tenir des blogs, etc. Mais tout ça, c'est évidemment souterrain, c'est illégal, et c'est un petit peu comme une espèce de guérilla contre le pouvoir central qui verrouille complètement tous les accès.
Nuestra confianza es puramente estadística. Se trata de que siempre es más difícil evitar que alguien entre o escape a través de una muralla que abrir un agujero en la muralla.
Et en fait, c'est bien simple, c'est plus difficile d'essayer de surveiller pour faire en sorte que les gens restent coincés à l'intérieur d'une muraille que les gens de l'intérieur de la muraille de trouver une faille pour s'y glisser et pour sortir.
De todas maneras, recordando algo que me comentaban sobre mi primera intervención, cuando en Cuba se presentó la película Minority Report, los cubanos quedamos un poco decepcionados. Así que Spielberg creía que el futuro era lo que la policía cubana llevaba tantos años haciendo.
Et donc, en fait, ça me rappelle ce que j'ai dit lors d'un autre débat, dans une intervention précédente. Lorsque le film Minority Report est arrivé à Cuba, donc les Cubains sont allés le voir et puis ils sont sortis un peu déçus parce qu'on leur présentait ça comme un truc très futuriste, alors que finalement, à Cuba, la police faisait ça très régulièrement depuis des dizaines d'années.
D'accord. Yael, concernant la recherche d'anonymat et dans tes œuvres, on retrouve des fois cette recherche d'effacer les informations, même si on est surveillé, de trouver des failles dans le système. C'est une préoccupation réelle.
C'est une préoccupation réelle et d'énormément de gens. Le hacking reste quand même l'un des outils les plus efficaces pour se débarrasser d'un certain nombre de traceurs. Enfin, voilà. Mais il ne faut pas rêver, les plus efficaces là-dessus sont les hackers de la NSA. Donc un certain nombre d'informations circulant et étant signées Anonymous, attention, Anonymous, quand même, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait absolument pas qui il y a derrière, on ne sait même pas s'il y a l'ombre d'une organisation internationale, s'il y a quoi que ce soit. Beaucoup de ces informations, quand on commence à les analyser, à les recouper avec d'autres qui circulent quelques semaines plus tard, ben, on arrive très très vite à se dire, ah oui, à qui profite le crime, et curieusement, on va facilement se retrouver vers des agences dont la spécialité est la manipulation d'opinion. La DCRI française joue à ça régulièrement sur Facebook, par exemple. Et sous couvert, bien sûr, d'Anonymous. On est, voilà, le masque, il est super génial. J'en ai un beau, magnifique, d'ailleurs, je le mets à chaque fois que je vais les saluer. Donc, même les outils et les compétences qui nous permettent d'avoir de temps en temps une information réelle ou d'échapper un petit peu, un tant soit peu, au système, peuvent être utilisés et le sont pour nous manipuler d'une façon un tout petit peu plus subtile. Quand on a les moyens d'embaucher 100 000 informaticiens parmi les meilleurs du monde, et c'est le cas de la NSA, hein, je cite souvent la NSA parce que, franchement, en France, on est encore un petit peu des nains de jardin. On a notre French long qui fait rire à peu près le monde entier, parce qu'on arrive quand même à surveiller jusqu'au Guadeloupéen ou au Martiniquais. Non, grâce à ça, on entend aussi les coups de téléphone cubains et même à Miami. Mais oui, disposant des 100 000 meilleurs informaticiens du monde, ou presque, parce que les autres sont peut-être dans la Silicon Valley, il est évident qu'ils ont des compétences et ils ont les outils pour faire à peu près, pour obtenir l'information qu'ils veulent, comme ils veulent, et surtout pour organiser des manipulations de masse par l'intermédiaire de rumeurs, par l'intermédiaire d'informations qui sont en partie réelles, mais très légèrement déformées, suffisamment pour que, au bout du compte, ce qu'on en interprète ne nous permette pas de comprendre réellement ce qui s'est produit. C'est un exemple parmi d'autres. Mes derniers romans, quasiment tous, si je suis passé au thriller, c'est aussi pour pouvoir parler de ça aux contemporains. Mais mon travail consiste aujourd'hui à dire gaffe, 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 gaffe. C'est pas une raison pour devenir parano, c'est pas une raison pour développer des théories du complot, mais quand même, on jette un œil, on écoute, on compare, on recoupe. Hein, le recoupage.
Oui, en fait, dans cette société qui collecte tellement d'informations sur nous, c'est à nous de collecter à notre tour des informations pour ne pas se faire avoir. Finalement, c'est ça que tu dis.
Je dis qu'on peut très bien vendre du mensonge. Je me fais quand même un plaisir depuis des années, depuis que j'ai été mis sur écoute, en fait. Donc, fin des années 90, en 97, 98, je ne sais plus. Quand j'ai été informé par un juge d'instruction que j'étais sur écoute suite à une nouvelle que j'avais publiée dans un journal qui s'appelle Libération. La nouvelle s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien, je vous la recommande ». Elle a emmerdé tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Et moi le premier, parce qu'effectivement, quand on se retrouve informé qu'on va être surveillé pendant... Alors au départ, on m'a dit quelques mois, ça a duré plusieurs années. Voilà. Donc j'ai à ce moment-là compris à ne plus rien cacher. J'ai appris à ne plus rien cacher. C'est-à-dire que vous voulez tout savoir sur moi ? C'est génial ! Je vais vous noyer d'informations qui ne servent à rien. Mais putain, ça a dû faire travailler un paquet de mecs. Hein.
C'est tout ce qui est arrivé à la Stasi. C'est-à-dire que la Stasi il y a des caves et des caves d'informations récoltées par la Stasi, des fiches et des fiches et des fiches et des fiches. Donc, il faut avoir le système de la Stasi et de surveillance absolue. Les conjoints dénonçaient leurs conjoints, les enfants dénonçaient les parents. Enfin, c'était formidable. Et donc, cette masse d'informations n'a pas empêché la RDA de sombrer. C'est-à-dire que avoir des informations sur des individus, en général, ça empêche... Moi, ma théorie sur la question, c'est que récolter des informations sur des individus, ça n'aide pas le système à se rendre compte des mouvements globaux de population, des mouvements globaux. Donc, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va écouter telle personne ou telle personne. Mais on ne se rend pas compte des mouvements, des grands mouvements sociaux qui peuvent, eux, faire basculer le système. Donc, le groupe domine les systèmes d'information d'une certaine manière.
Une fois de plus, c'est une ignorance du collectif par rapport à l'individu. C'est le gros problème, je trouve, de notre société, de cesser de se voir en tant que groupe, quelque part. Et par ailleurs, le coup des Twin Towers, apparemment, ils avaient les infos avant que ça tombe.
Il y a deux services spéciaux, donc le BRD et la DGSE, qui leur ont communiqué les infos plus d'un mois avant.
Donc si c'est pas ridicule, effectivement. Ça,
oui, mais ça, c'est parce que justement, pour traiter ces informations, il faut avoir le logiciel, en sortant, il faut avoir le référentiel pour l'accepter, ou le paradigme pour l'accepter. Mmh. Les États-Unis n'avaient pas le paradigme c'est à tel point même, ils n'avaient tellement pas le paradigme que quand le 11 septembre a eu lieu, le système de défense aérienne américain est constitué pour se défendre d'une attaque extérieure. Et donc les avions, il a fallu reprogrammer tout le système pour que les avions de chasse puissent se dire « Ah bah oui, il faut qu'on regarde à l'intérieur, qu'on puisse... Ouais. » Donc c'est aussi, c'est pour ça que l'aspect collectif, le système lui-même doit se penser. Et là, on a un gros problème.
C'était d'ailleurs une information qui avait été donnée suite à l'affaire de la NSA en disant « Les États-Unis arrivent à écouter beaucoup avec des technologies très puissantes, mais ils ont besoin de s'inspirer des méthodes plus européennes où il y a une relation plus humaine pour ressentir sur le terrain les petits changements qui ne se traduisent pas déjà dans des logiciels d'analyse de l'information. » Parce qu'effectivement, écouter l'avis en permanence de chaque individu, ça demanderait de mettre autant de personnes en face pour passer son temps à écouter et à analyser les subtilités de modification, ce qui est complètement impossible.
En fait, non, ce n'est pas totalement impossible. On progresse de plus en plus dans l'analyse d'information et dans l'analyse automatique de l'information.
Oui.
Ce qui est très très important, c'est de mettre en place des systèmes d'alerte, c'est-à-dire... Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, on sait mettre des systèmes d'alerte sur des mots-clés, sur un ensemble de mots-clés, mais pas analyser, par exemple, dans un groupe complet, le fait que quelque chose, on ne sent pas venir, est en train de s'organiser. Il y a un collectif qui est en train de s'organiser. Et parce qu'il y en a un qui est en Corée du Sud. Il y en a un qui est dans Lozère du Nord. Et voilà. Et qu'à eux tous, finalement, ils font évoluer une idée qui va profondément modifier un comportement sociétal, peut-être parfois de manière durable. Et je voudrais rappeler quand même une petite chose que tu disais à propos des Twin Towers et ce qui s'est produit par la suite. Le fait que les services spéciaux américains ont pris conscience à quel point le fait de se reposer sur leurs outils informatiques les avait rendus totalement incompétents, c'est-à-dire incapables d'avoir des gens sur le terrain... de faire le job celui qu'ils ont toujours fait. Ils ont arrêté de faire le job quand ils n'ont plus eu le KGB en face, grosso modo. Ils se sont dit, ça ne sert à rien de former des agents de terrain. De toute façon, on va faire de l'espionnage informatique, caméras, satellites, tout ira bien. Ils se sont rendus compte de ça. Et donc, il y a un type qui était à l'époque conseiller de Dick Cheney, c'est lui qui a amené... c'est un auteur de SF très, 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 très connu, mais je ne prononce pas son nom parce que lui faire de la pub, ça me fait gerber. Mais donc le conseiller de Dick Cheney de l'époque a été celui qui a dit « Ah, maintenant, il faut reformer des agents de terrain. » Et la CIA, le FBI, la NSA, tout un tas de... se sont remis à former des agents de terrain et grosso modo à former des RG. Des gens qui vont chez les gens, qui vont dans les groupes, et il est peut-être l'heure d'arrêter, là, non ?
Oui, il est l'heure d'arrêter, effectivement. Oui ?
Ah oui, voilà, donc oui. C'est-à-dire que oui.
Oui, c'est aussi une autre forme de contrôle
c'est,
oui, en abrutissant.
C'est sur cette idée qu'on a imaginé qu'avec Internet, on atteindrait une sorte de communauté absolue et de contact absolu et qui ferait une sorte de super collectivité où il n'y aurait plus de frontières, plus de limites et d'éliminer les barrières. Mais. Avec un échange d'informations et donc finalement il n'y aurait plus de limites. Et mon idée c'est que finalement l'enrichissement, c'est qu'on perd avec cette masse d'informations, on perd en qualité d'individualité. C'est-à-dire que finalement, nous sommes. Ce qui est important, c'est finalement les frontières, c'est l'identité que l'on crée à travers les cultures ou autres, ce qui fait qu'on peut communiquer. Si on abat tout ça et qu'il n'y a rien pour alimenter tout ça, et justement, moi j'étais parti justement de Twitter, c'est-à-dire le fait de l'expression du moi, et que au bout d'un moment, avant, enfin c'est dur à bon, je vais essayer de résumer. C'est-à-dire que il y a deux manières de concevoir la communication, soit la communication du type cartésien, c'est-à-dire un émetteur, un message, un récepteur. Et moi, j'étais parti d'une autre conception qui est une conception un peu spinoziste, c'est-à-dire de l'expression. C'est-à-dire que finalement, l'autre manière de communiquer, c'est de s'exprimer et d'étendre son soi à l'autre. C'est une autre manière de communiquer. Donc finalement, et ce qui se passe avec les SMS ou Twitter ou autre, finalement, nous étendons notre moi à l'autre. Nous partageons, nous faisons une sorte de fusion. Mais si notre moi est vide, s'il n'est pas alimenté par quelque chose, par une culture, par une curiosité, etc., bah, au bout d'un moment, il y a une sorte d'anémie, finalement, une sorte d'atonie, il ne reste plus rien, parce que la communication devient l'individualité. Et il n'y a plus vraiment d'échange, il n'y a plus rien. Et donc, moi, je remets des frontières, je remets du chaos à travers ces frontières pour qu'il se passe quelque chose. Parce que, et de toute façon, dans tous mes romans, que ce soit le premier Structura Maxima, moi je crois beaucoup plus à l'aspect dialectique. C'est-à-dire que pour qu'une société évolue, elle doit se fonder sur des oppositions. Bon, je passe les théories de sciences politiques derrière, bon, j'ai pas le temps. Voilà. Oui, c'est pas. Mais c'est-à-dire que nos sociétés, notamment la France, mais tous les pays, l'identité culturelle des pays se fonde sur des oppositions, sur des bipolarités, enfin, des oppositions, par exemple en France, sur la question de la religion, sur la question de ce qui est de privé et de public, c'est ce qui fonde notre identité. Donc les oppositions ne sont les conflits, ce n'est pas, de mon point de vue, quelque chose de négatif. C'est ce qui fait qu'une société est vivante et que son identité se construit et qu'elle vit. Alors que, imaginez que on est dans une société qui, parce qu'elle communique, va être pacifiée d'une certaine manière par la communication. Je n'y crois pas. C'est-à-dire, en faisant ça, on aboutit finalement à une sorte d'atonie. Il n'y a plus rien à échanger, quoi.
Et comme le temps passe un peu pour finir, je pense que pour avoir des clés pour résister ou du moins pour être conscient déjà. Première chose, être conscient de ce qui se trame, de la manière dont on nous intègre dans cette société. Pour avoir des clés pour comprendre tout ça, il faut lire des romans de science-fiction.
Je vais quand même redire, tu l'as dit, la façon dont on nous intègre, etc. Dont nous nous laissons intégrer. Il ne faut jamais abdiquer notre part de responsabilité. Jamais. Sinon, on mérite ce qui nous arrive.
Je suis d'accord, tu es coupable.
Absolument. Et avec fierté.
Merci. Tous coupables.
Tous responsables.
Todos somos culpables.
Oui, nous sommes
en Cuba decimos que cada país tiene el gobierno que se merece.
Et en fait, à Cuba, on dit que chaque pays a le gouvernement qu'il mérite.
Merci. Merci à tous. Jeanne. Olivier Yann.